With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bon allez, on va rappeler même plus que c'était
Yannick, sujet, va t'asseoir. Tu fais pas partie de l'émission.
Bah ouais,
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine ouvre grand son cœur à l'un de ses chouchous ultimes, le merveilleux Guillermo del Toro qui nous revient avec Crimson Peak, retour au cinéma d'horreur et l'occasion rêvée pour nous de replonger avec délice dans sa filmo pleine à craquer de très très belles choses. Pour en parler, un duo, Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut.
Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et le public autour de nous ici autant qu'à l'essai Nos Ciné, épisode 24 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Crimson Peak, ça nous embarque dans l'Angleterre du 19e siècle, dans le couple que forment Tom Hiddleston et Mia Wasikowska, installés dans une coloc de l'enfer avec la frangine de Tom incarnée par Jessica Chastain, une famille qui cache bien son jeu dans sa charmante maisonnette de Crimson Peak où il se passe des trucs un peu bizarres.
I'm here to take you away.
There's nowhere else to go. This is your home now.
Oui, ça fait peur. Nos deux amis autour de la table ont vu Crimson Peak. Qu'en ont-ils pensé, Rafik ?
Alors déjà, pour commencer, c'est un festin visuel. On serait presque tenté de dire que c'est devenu une habitude avec Guillermo del Toro. Mais enfin, bon, personne ne l'oblige non plus à nous servir,
c'est ça. C'est tellement plus une habitude de cinéma que...
Voilà. Donc ça peut être assez choquant quand on est sorti d'un Fast and Furious d'enchaîner avec un film aussi coloré et texturé que celui-ci. Mais comme on va le voir, il n'y a pas que ça. Et donc, c'est aussi un magnifique hommage à la littérature gothique, enfin au genre gothique horrifique dans son ensemble. Et ça aussi, on y reviendra, je pense.
Stéphane ?
Bah, en fait, ce qui est assez fascinant avec le film, c'est que de prime abord, tu pourrais croire que c'est un film gothique assez classique. Et en fait, j'ai envie de dire un peu cette forme, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que Del Toro, en fait, le vent, entre guillemets, c'est-à-dire il en parle comme dans son premier film espagnol fait aux États-Unis. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un film sur les conventions sociales, c'est un film sur... c'est clairement explicité dans le film, quoi. Et c'est la première fois qu'il traite, en fait, un pan de sa carrière avec une certaine jonction. C'est-à-dire que Del Toro, on le connaît pour ses films espagnols, qui sont en général révérés par la critique, et on le connaît pour ses films américains qui sont en général la critique chie dessus. Donc voilà. Donc t'as d'un côté t'as Labyrinthe de Pan et Les Chines du Diable, et de l'autre côté t'as Pacific Rim et Blade 2 et d'autres évidemment. Et le truc c'est que le film parle aussi déjà plus ou moins de ça, c'est-à-dire qu'en fait il fait à la fois la jonction entre les deux, on va dire, dans cette logique là. Et en même temps, en fait, c'est un film qui est le pont entre ces deux univers, parce que c'est la même personne. Hein,
Et qui a déjà des parallèles dans tous les sens.
Voilà, donc
ces films,
voilà.
Entre les deux cartes qu'il a dans son jeu, quoi.
Exactement. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est un film qui donne la réponse à la question qui était posée dans Les Chines du Diable. C'est quand Les Chines du Diable, en fait, commence par qu'est-ce qu'un fantôme ?
Qu'est-ce qu'un fantasme ?
Voilà. Le celui-là, il commence clairement par
Ghost
fantôme existe. Voilà.
Ghost Paril, this I know for sure.
Voilà. Ouais. Donc c'est clairement un film somme pour Del Toro. Et c'est assez surprenant parce que c'est vraiment en sous-thème en fait du film, quoi. Et je pense qu'il arrive à un aboutissement aussi de certaines formes d'horreur qui le fascine, ne serait-ce que par les films qu'il a produits récemment, ne serait-ce que par le fait que ces films d'épouvante comme ça n'existent plus vraiment dans le système hollywoodien, ne serait-ce que parce qu'il a jamais réussi à faire pour l'instant son adaptation de Lovecraft, et que là en fait il fait un vrai film militant, c'est-à-dire qu'il fait un film d'horreur beau. Mais vraiment horrifique, vraiment gore en plus, parce que c'est surprenant aussi en fait, vraiment sexué, Enfin, c'est donc c'est un film assez plein. Effectivement, apparemment, la critique est pas très tendre.
Non, la critique est pas tendre. Et ça serait presque attendu. Je pense même qu'une partie du public ne sera pas tendre avec le film, parce que tu parlais de conventions. C'est un film qui effectivement a pour thème en partie les conventions sociales, mais aussi les conventions de la narration et du jeu avec le public. C'est-à-dire que c'est un film qui ne propose pas du tout de porte d'entrée comme on est habitué à nous en vendre aujourd'hui régulièrement, où pour nous faire un film fantastique il nous faut un tunnel d'une demi-heure pour nous faire éventuellement accepter le fantastique. Et ça, c'est un truc que Del Toro a clairement décidé d'abandonner il y a un moment, puisque c'était déjà le cas de Pacific Rim, où en une minute montre en main, tout était posé. C'est une façon de dire au spectateur, tu sais ce que tu es venu voir. Oui. On va pas perdre du temps
à essayer de faire genre,
oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y aurait des fantômes dans ce film que, voilà, non. La première phrase, c'est les fantômes existent, je le sais, j'en suis certaine. Ouais. Boum, c'est réglé et on va plus rentrer dans le cœur du sujet. Ça, c'est le premier point et je pense qu'il y a une partie du public qui a encore besoin aujourd'hui, malgré sa connaissance du genre, qu'on la prenne par la main. Mais c'est pas parce qu'elle comprend pas le genre, mais parce que c'est une convention qu'on la prenne par la main. Donc le film refuse cette convention. Donc ça, c'est notable. Et l'autre point qui me semble important, parce que donc évidemment le film, comme souvent dans les films que l'on défend ici, se fait accuser pour son manque de scénario.
Parce que
on sait bien que déjà Guillermo n'écrit pas ses propres scripts, bien sûr, depuis le début de sa carrière, et que Matthew Robbins est un débutant dans le milieu du scénario,
un
inconnu total qui a simplement commencé vers les années 70. Donc c'est des gens qui savent pas structurer un récit, bien sûr. Bref, mais passons. Le fait est que, à la façon aussi de Pacific Rim, c'est pas un film qui se raconte avec des mots. Et c'est un film qui se raconte par sa structure et par sa texture. Et ça, chez Guillermo, c'est devenu presque une obsession, je dirais, d'essayer de trouver une façon de raconter les choses qui ne passent plus du tout par l'intellect. Je dirais que, au niveau scénaristique pur, le film est extrêmement conventionnel, au point où ça peut être troublant, au sens où il va très exactement là où on s'attend qu'il aille. Il n'y a pas de retournement de situation. Ce qui doit se passer dans un récit gothique se passe au moment où ça doit se passer. Mais l'essentiel est raconté par les couleurs, par les décors, par les costumes, par la texture, par le jeu corporel des comédiens. Et ça, c'est dans la tradition alchimique que Del Toro travaille depuis son premier film Chronos. Et là, je suis pas en train de raconter un délire, hein. C'est des choses que lui nous a dites, nous a confirmé qu'il y avait des propositions alchimiques dans ses films, et notamment dans le travail sur les couleurs. Et donc toute l'évolution du personnage d'Edith se fait dans le visuel, quoi. C'est-à-dire que elle est née dans un pays rationnel et les pieds sur terre et pratique qui est les États-Unis, donc autour d'elle il n'y a que des formes géométriques dans la maison de ses parents, et des couleurs qui se marient harmonieusement. Et quand elle va être traînée dans cette Angleterre victorienne décadente, chargée de démons du passé, là on n'aura plus que des colonnes torsadées, des personnages qui portent des tenues absolument impossibles, qui leur tiraille le cou, etc. Enfin, des choses pas du tout agréables, et des ronds partout, et une symbolique, je dirais, jungienne, très appuyée, voire même parfois caricaturale. Enfin, voilà, c'est une jeune fille, et quand elle descend dans les sous-sols, voilà, il y a une espèce de sang menstruel qui monte des cuves.
Mais c'est tout le truc, en fait. C'est que quand tu regardes, c'est comme quand tu regardes Mad Max, c'est qu'à un moment donné, quand tu...
C'est des films
qui sont très... Non, mais on parle de cinéastes visuels, et en fait, le truc, c'est que c'est des films qui sont très complets. Et justement, quand tu leur reproches une écriture scénaristique là-dedans, c'est oublier, en fait, que si tu te tapes le film et que tu le prends émotionnellement, c'est aussi parce que justement, il y a tout ce travail derrière. Donc, en fait, pour revenir sur ce que dit Rafik, c'est effectivement, t'as donné les détails, c'est cette imagerie, en fait, très menstruelle, tous ces trucs-là, etc., etc. C'est quelque chose qui est au cœur du film. C'est tellement évident, en fait, quand tu regardes le film, que c'est étonnant que les gens passent à côté. Justement, c'est ça que je trouve toujours surprenant.
Est-ce qu'ils passent à côté? C'est-à-dire, je pense qu'ils le ressentent. Inévitablement, on a ce ressenti. Je pense que là, ce dont on parlait, ce pas entre les États-Unis et l'Angleterre, il est visuellement tellement évident, effectivement, que je crois qu'il y a un ressenti. Maintenant,
il n'y a pas un moment où le personnage dit ah, ça change des États-Unis.
Exactement. Et je pense qu'on
n'est pas dans un film où, comme tu dirais, un film où quand le personnage va boire un verre d'eau, il va dire je vais boire un verre d'eau.
Voilà. Et par convention, le spectateur attend qu'on le prenne quand même par la main pour valider le ressenti qu'il a déjà eu.
Oui.
Et là, il n'en est pas du tout question. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est, enfin, je sais que sur Pacific Rim, il y avait eu exactement les mêmes soucis. Perfect. Et sur Internet, j'étais tombé sur un truc extraordinaire. C'était un gars qui avait raconté comment sa femme, sa copine avait vu le film. Et sa copine, elle avait un problème de dyslexie assez violent, assez dur. Et elle avait vu Pacific Rim. Et quand ils en ont parlé après, elle lui a sorti des tas de choses aberrantes que le type était. Mais de quoi elle me parle? Et la nana, elle avait vu le film, elle l'avait lu. Elle disait, mais si, bien sûr, puisqu'elle a perdu sa chaussure, alors donc ses cheveux à ce moment-là, ils sont colorés de cette façon. Et donc, elle, qui avait du mal à travailler justement avec le langage, à penser avec le langage, elle avait complètement suivi le chemin annexe que Del Toro proposait à travers le visuel. Quoi. Et je pense que c'est la même chose pour Crimson Peak.
Crimson Peak, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, et on continue. Ah, le cri du kaiju, ça fait toujours son petit effet. En une petite vingtaine d'années, Guillermo del Toro a vigoureusement conquis nos petits cœurs de geek avec une enfilade de films cultes qui démarrent avec Chronos en 93, suivi pêle-mêle par Mimic, Blade 2, Les Chines Ludia, Pacific Rim, Le Labyrinthe de Pan, ou encore les deux formidables adaptations du comic Hellboy.
En l'absence de lumière, les ténèbres règnent.
Hellboy, il existe.
Et on veut toujours croire très fort à un troisième Hellboy. Guillermo, si tu nous entends, on est prêt. Cette filmographie que j'ai rapidement détaillée à l'instant, qu'est-ce qu'on en pense, Stéphane?
Merci,
Stéphane.
Ce que je trouve particulièrement admirable, en fait, chez Del Toro, c'est que c'est... J'en ai déjà fait les frais. Non, le truc, c'est que ce que je trouve vraiment admirable chez Del Toro, c'est cette capacité à mener ses projets selon la façon dont il l'entend, lui. C'est-à-dire, il a payé le prix avec Mimic à l'époque.
Tout à fait.
Du système des studios, quoi, et en l'occurrence des studios indépendants, en plus censément indépendants, donc chez les Weinstein, pour un sujet qu'il est censé connaître, c'est-à-dire enfin pour un genre qu'il est censé connaître, le cinéma d'horreur, quoi, plus que les Weinstein en tout cas, et en fait il a décidé à partir de ce moment-là que il faisait les films qu'il voulait faire et selon le temps et le rythme qu'il voulait. C'est-à-dire, moi je me rappelle qu'il nous avait raconté que sur Blade 2, New Line le voulait, les producteurs le voulaient, et il leur a dit ok, mais si vous pouvez attendre,
c'est pas si vous pouvez attendre, vous allez attendre.
Vous allez attendre parce que je vais le faire. Si vous voulez de moi quand je reviens, très bien.
En fait, il voulait faire les Chines du Diable avant pour se reconstruire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience Mimic avait été traumatique. En fait, il était reparti au Mexique, la queue entre les jambes, et il a fallu du temps pour se refaire. Et il savait qu'il devait faire un film qu'il maîtrise complètement, donc un petit film entre guillemets, et ça allait être les Chines du Diable. Et du coup, c'était le film absolument nécessaire pour qu'ils se sentent l'assurance de pouvoir enchaîner avec un film de studio.
Donc c'est des films qui portent peut-être certaines concessions, hein, les films d'après, on peut pas dire le contraire, mais ça reste des films de studio, ça reste des films faits avec des ces logiques là, mais par contre c'est des concessions qu'il choisit lui-même quand il veut faire un PG-13, quand il veut faire, voilà. C'est pour ça que le film, l'adaptation de Lovecraft n'est pas encore faite, c'est parce que jusqu'ici, malgré le fait qu'il ait quelqu'un comme Tom Cruise, qu'il ait James Cameron, qui soit soutenu par quand même deux des plus grosses stars en fait d'Hollywood, des plus gros power players, quoi. Et le film ne se fait toujours pas parce qu'en fait il veut le faire d'une certaine manière, c'est-à-dire il veut le faire en R pour être sûr qu'il va s'assurer le montage, et c'est pas forcément du gore ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir faire un film intense, qui fasse vraiment peur, où il n'y a pas forcément de rôle féminin, parce que c'est la problématique aussi, c'est que les studios disent oui, mais si vous mettez un personnage féminin, on peut ramener le public féminin. Non, il n'y a pas de personnage féminin, donc non, je ne le rajouterai pas pour une démographie,
plaisir,
voilà.
Oui,
et en fait voilà, c'est ce que je trouve extrêmement attachant avec lui, c'est cette capacité, et c'est même étonnant aujourd'hui qu'il soit finalement qu'il arrive autant à ses fins, en fait.
Il arrive à ses fins parce qu'il y en a très peu sur Terre, hein, oui. des réalisateurs capables de gérer des gros budgets, capables de gérer des équipes complexes avec beaucoup d'effets spéciaux, avec des décors, etc. Qui soit un vrai directeur d'acteur. Enfin voilà, donc il a
immédiatement identifiable.
Exactement, mais il a un panel de compétences. Au-delà même du talent artistique, il y a un panel de compétences qui est très très rare. Et il sait aussi bien gérer l'action que les ambiances gothiques. Enfin, c'est voilà. Et donc ils l'ont voulu pour plein de projets. Enfin, le nombre de projets qu'il a refusé. Oui. Alors on serait tenté à chaque fois de penser. Quand on connaît mal, que c'est du snobisme qui veut pas se mouiller. Par exemple, les Harry Potter, où ils sont revenus, je crois, 3 ou 4 fois à la charge pour lui faire réaliser des Harry Potter. À chaque fois, il a dit non. Il nous disait d'ailleurs qu'à chaque fois, il s'engueulait avec sa femme parce que elle, ce qu'elle voyait, c'était pas le fait qu'il réalise Harry Potter ou pas, c'était la maison qu'ils allaient pas pouvoir acheter dans tel pays. Mais c'est pas que ça l'intéressait pas, Harry Potter. C'est juste qu'il voyait à quel point il y avait un nombre incalculable d'exécutifs avec lesquels il allait devoir négocier la moindre décision. Et c'est après un de ses refus, je crois le troisième, qu'il a fini par leur conseiller son ami Alfonso Cuarón pour le troisième volume. D'ailleurs, Cuarón et Guillermo ont connu un petit peu le même parcours. Hein. Cuarón, on l'oublie, on l'a même complètement oublié, mais il était parti à Hollywood faire des films. Il avait fait La Petite Princesse, suivi d'une adaptation de Grandes Espérances, pour Miramax en plus, je crois.
Non, c'est Fox.
C'était Fox, ouais. Voilà, mais Fox Classics, enfin, la version indépendante, entre guillemets, qui s'est ramassée aussi. Et lui aussi est reparti la queue entre les jambes au Mexique, se refaire avec un film personnel qui était Y tú mamá también. Donc, ils ont tous les deux des parcours. Voilà, assez, assez parallèle, intéressant. Mais je pense que le panel de compétences de Guillermo est plus important. Et aussi, et ça c'est pas négligeable, c'est la raison pour laquelle Universal continue à lui ouvrir régulièrement ses portes, c'est qu'ils veulent en faire, entre guillemets, leur Tim Burton depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'Universal, ils ont le catalogue de monstres le plus important, de monstres gothiques le plus important à Hollywood, et ça fait des années qu'ils cherchent quelqu'un qui puisse le gérer. Ils avaient cru en Stephen Sommers à l'époque pour le faire, après le succès de La Momie, et ça a donné Van Helsing, voilà. Où en gros, on a flingué pour 10 ans toutes les créations Universal pour tout le monde, dans une énorme montagne de coke. Et la raison pour laquelle Universal a repris Hellboy, c'était pas tellement qu'Hellboy les intéressait, c'était que Guillermo les intéressait, en fait. Je pense qu'il y a toujours des négociations en coulisses sur l'homme invisible, sur le loup-garou, sur ce genre de truc pour lui faire ça. Il y avait proposé d'ailleurs le loup-garou.
Oui, mais ça c'était quand il y a eu tout le micmac autour de Romanek, c'est ça, Marc Romanek qui s'est barré. Mais le truc avec Del Toro, c'est il a ce panel de compétences, comme dit Rafik, mais il a ce panel de compétences pour faire ce qu'il veut faire lui. C'est-à-dire que même quand il produit des films, comme Mama, c'est des films qu'il aurait, entre guillemets, pu réaliser à une époque, et en fait qu'il a lâché en route, quoi, et qu'il a filé à quelqu'un d'autre assez poulain, on va dire, entre guillemets, quoi. Donc c'est effectivement ce que je trouve étonnant, c'est vraiment que cet univers là soit reconnaissable, qu'on lui accorde ces choses là mais parce qu'il est le premier à se les accorder lui-même, en fait, c'est ça le truc.
Et puis c'est pas négligeable aussi, c'est lui qui considère ça comme une malédiction, mais ça peut être vu comme un atout, c'est sa capacité à faire énormément avec très peu. Le premier Hellboy avait coûté 66 millions de dollars, et il y a cette anecdote rigolote qu'il nous avait racontée, où Spielberg avait vu le film en avant-première et était venu le voir en coulisses en disant c'est quoi le budget, et donc Guillermo lui dire 66 millions de dollars. Ah d'accord, mais c'est quoi le budget, le réel? 66 millions de dollars. Ouais, on est tout seul, il n'y a personne. Tu vas me dire combien ça a coûté. Désolé Steven, ça a coûté 66 millions de dollars. Et Steven Spielberg n'y croyait pas. Que Spielberg n'arrive pas à imaginer qu'un mec ait pu faire ça pour cette somme là ça donne une idée de ce qu'il est capable de faire. Lui, il considère ça comme une malédiction, parce que les studios, étant au courant de sa capacité,
lui
à faire,
pas
voilà,
forcément,
voilà. Et sur Hellboy 2, il était furieux parce qu'il bénéficiait d'un budget dérisoire, alors qu'il avait des armées de robots, ça se passait dans les aux quatre coins du monde. Et voilà, donc le seul film sur lequel on lui a laissé un peu le budget nécessaire, c'était pour l'instant, c'est Pacific Rim. Oui.
Et c'est d'ailleurs assez marrant, parce que toute cette logique de double carrière, entre guillemets, que les gens voient comme double carrière, c'est l'enjeu au centre de Pacific Rim, hein. C'est les deux cerveaux qui se rejoignent, les deux pilotes qui doivent connecter une seule et même machine entre eux.
Et à l'époque, du coup, Spielberg avait été tellement impressionné par ça, qu'il avait dit à ces gens de DreamWorks, quel que soit le projet que ce type vous donne, vous lui donnez un rendez-vous. parce que lui, il participe pas aux négociations. Et Guillermo avait été donc chez Dreamworks parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'ils avaient le projet des montagnes hallucinées. Enfin, ils n'avaient même pas pris la peine de le regarder de près. Donc, ils ont fait un rendez-vous et Guillermo nous racontait que le rendez-vous, il a duré 5 minutes. C'est-à-dire qu'ils avaient lu le script. Alors oui, ça nous intéresserait. Par contre, on s'est demandé est-ce qu'il pourrait pas y avoir une femme au sein de l'équipe. Et là, dit-il, il s'est levé, il s'est barré. C'est même pas de négociation.
Ça a toujours été comme ça.
Hein. C'est la première question que vous posez. C'est même pas la peine d'aller plus loin.
Sur Hellboy, c'était la même chose. Quand il a rencontré Vin Diesel pour faire plaisir au studio, mais il a toujours su que c'était Ron Perlman. Ouais. Quand le mec du studio lui disait, mais ça serait bien que par exemple Hellboy, ça soit un humain et qu'il se transforme en démon quand il est en colère, il fait non. voilà. Et c'est énormément de et ça c'était avant que les films de super-héros soient à la mode, on va dire.
Et ça, du coup, il s'est fait un peu une ennemie en la personne de ses amis. Je sais plus son nom, enfin la nana d'Universal aujourd'hui là, qui a sauté avec
la patronne de Sony.
De
Sony
Pictures. Amy Pascal.
Amy Pascal, c'est ça. Je crois que c'est elle. Ou... Bref, en tout cas, voilà. Je sais qu'à l'époque où le projet Hellboy avait une chance de se faire, on était en 98. Et c'est un regret énorme qu'il a parce qu'il aurait pu être le premier réalisateur à montrer à quoi peut ressembler un film comic book. Oui. Alors que d'après lui, c'est X-Men qui a lancé la vraie vague en fait. Quoi.
La filmographie de Guillermo del Toro, on la retrouve en DVD, VOD, sans trop de problèmes, et ça vaut mille fois le coup, vous l'aurez compris. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, 2 petites minutes chacun, pour convaincre, on essaie de rester dans le thème, si possible, del Toro et associé Rafik.
Oh, il y aurait tellement de choses,
beaucoup de choses,
ma foi,
mais
bien sûr. Stéphane en a un peu parlé tout à l'heure, mais je recommande vivement le film Mama. Que Guillermo a produit après avoir découvert un court-métrage qui était déjà en soi fascinant, mais qui durait 5 minutes. Il a produit le long, et effectivement, c'est de tous les films que Guillermo a produit, c'est celui qui par moment aurait pu être
du
Del Toro. Oui.
Stéphane.
Moi, je vais recommander Blade 2 parce que c'est pas que c'est un film oublié. Hein. Je pense que les vrais fans de Del Toro le savent. Quoi.
Ça a été le point d'entrée pour pas mal de gens en plus.
Ça a été le point d'entrée pour pas mal de gens, mais c'est surtout comme c'est sorti en même temps que Les Chines du Diable, on a vraiment compris en fait que c'était un réalisateur qui était capable de faire tout, c'est-à-dire vraiment à sa manière. Hein. Et le truc, c'est que c'est surtout pour moi en fait un des rares films totalement complet, décomplexé et en même temps, enfin, un vrai rêve, un vrai fantasme geek, en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre que si on s'estime geek, on n'aime pas Blade 2. Il y a absolument tout dans ce film. Donc voilà, quoi.
Et puis, juste, il y a un livre de John O, de l'illustrateur John O, illustrateur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, sur les dragons. Qui a été fait en collaboration avec Guillermo. Alors, Guillermo n'a fait que la préface officiellement, mais vu qu'ils avaient bossé ensemble sur la préparation du Hobbit et que justement un de leurs boulots c'était de créer le dragon magnifique du film, ce livre qui est en fait se présente comme une espèce d'ouvrage zoologique sur les différents dragons qu'on peut trouver sur Terre. Il y a pas mal de Del Toro qui s'est glissé dedans.
Voilà, petit conseil de lecture pour terminer. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique, au temps et au public pour l'accueil. Prochain au ciné. Dans une semaine, on parlera de Seul sur Mars, le gros carton annoncé du pourtant plus très inspiré Ridley Scott. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Sicario, sur The Visit, sur NWA, sur Mission Impossible, sur Mad Max. Et d'ailleurs, prenez vos places sur nosciné.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors maniez-vous. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.